Voilà, merci, bienvenue à tous pour cette troisième séance du séminaire Figure du juge, troisième séance pour notre seconde année, parce qu'on a déjà fait une année complète sur cette thématique, qui vise à aborder le juge et son action à partir d'autres disciplines ou d'autres savoirs, et donc à multiplier un peu les regards qu'on peut avoir sur la justice et sur le juge en particulier. Alors, je vous remercie d'être tous présents ce soir parce que c'est un assez bon succès pour ces séances. C'est la troisième et on arrive à maintenir comme ça une audience. C'est sûrement dû à la qualité des orateurs, mais ça fait quand même plaisir que ça fonctionne. Alors, lors de la première séance, rappelez-vous, hein, on avait évoqué l'impact des émotions qui s'était analysé du point de vue de la psychologie et notamment le rapport entre émotions et stéréotypes et leur impact sur le juge en droit pénal. Et puis la semaine, enfin il y a 15 jours, on avait une séance sur l'arbitre dans le sport et les éventuelles comparaisons que l'on pouvait faire entre le processus décisionnel dans les pratiques sportives et quels étaient les enjeux et les difficultés que rencontraient les arbitres quand ils devaient prendre des décisions en situation. Et évidemment le juge qui est l'acteur, alors on peut discuter le terme d'acteur, mais qui est en tout cas le personnage auquel on s'intéresse. Alors aujourd'hui, nouvelle conférence avec une notion qui est devenue courante, qui est rentrée dans le vocabulaire des juristes, mais aussi de la science politique, de la théorie et de la philosophie du droit, à savoir la notion de judiciarisation, qui rencontre sans doute différentes définitions, mais qui est de plus en plus présente dans la littérature. Alors, l'idée, ce serait qu'un certain nombre de débats de société, voire de débats politiques, qui sont normalement objets de délibération, seraient de plus en plus soumis et tranchés par les juges eux-mêmes, ou dans la scène judiciaire, ou dans l'arène judiciaire. Et ce phénomène suscite à la fois des passions positives, on voit le juge comme le gardien de l'état de droit, ou comme le gardien de la démocratie, mais aussi des craintes à l'égard de ce qui est considéré comme une montée en puissance, voire les prémices d'un gouvernement des juges. Alors pour revenir sur ce phénomène qui est vraiment débattu, qui est amplement débattu dans l'enceinte académique, nous avons invité un sociologue du droit, en tout cas quelqu'un qui aborde les phénomènes juridiques du point de vue des sciences sociales, qui est familier de ces questions, mais aussi de notre université, puisqu'il est venu plusieurs fois nous rendre visite et qu'il a surtout été désigné en 2012 docteur honoris causa de la faculté des sciences sociales et politiques de l'ULB. Et pour lui répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Van Merbeek pour la première fois, qui est à la fois philosophe et juriste, si je ne me trompe pas, et qui enseigne notamment la théorie du droit à l'Université Saint-Louis. Voilà, je les remercie vraiment d'avoir accepté tous les deux de jouer le jeu. Je leur cède la parole selon la formule que vous connaissez maintenant. Un exposé de 45 minutes, maximum une heure, une petite réponse et puis surtout un débat entre les protagonistes et avec la salle selon toutes les questions qui seront libres pour vous. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci infiniment de votre accueil. Et toujours effectivement beaucoup de plaisir et ce n'est pas une formule à venir dans ces locaux et dans cette université, de façon plus générale dans l'université belge, puisque j'ai aussi fréquenté pendant longtemps l'université Saint-Louis et donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger des travaux, des analyses avec ce public qui est très nombreux, ce dont je me réjouis beaucoup, ce qui me, voilà, je trouve très gratifiant et j'espère que je serai modestement à la hauteur de vos attentes. Mais vous pouvez éventuellement me dire que à la fin, que je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes. Effectivement, alors j'ai été sollicité par Julie Allard sur le principe, parce que je crois que par rapport à ce thème de la figure du juge, elle trouvait intéressant effectivement d'avoir une perspective venue des sciences sociales, et puis effectivement elle connaissait un peu mes travaux sur la judiciarisation, ce que je réalise aussi avec une autre jeune collègue qui était ma doctorante, qui est maintenant ma collègue et avec qui j'ai plaisir à travailler, c'est Laurence Dumoulin. Je reviendrai sur des choses qu'on a pu faire ensemble, y compris ce rapport qui vient de sortir, une analyse critique de la littérature internationale sur la judiciarisation. Et donc, C'est Julie qui a choisi le titre de la communication, enfin de mon intervention, et je trouvais ça assez, enfin tout à fait stimulant. Je me suis dit qu'il fallait que je m'y soumette tout à fait, et notamment j'ai été très stimulé par le point d'interrogation qu'elle a mis dans ce titre, la judiciarisation à l'œuvre vers la figure du juge tout puissant point d'interrogation. Et effectivement, le point d'interrogation m'a amené à m'interroger d'abord sur c'est les différents mots qui sont contenus dans ce titre de la communication et qui méritent tous ces mots méritent effectivement de prendre de la distance en quelque sorte et ce sera sans doute le fil rouge un peu de la réflexion que je vais tenter de partager avec vous. D'abord le mot judiciarisation qui est juridicisation, judiciarisation sont des mots je dirais très à la mode et qui assurent assez facilement une notoriété à leurs auteurs à partir du moment où ils les emploient dans leurs communications, dans leurs écrits puisque ça semble s'inscrire effectivement dans les mouvements qui apparaissent d'évidence au niveau international. Je rappelle simplement, j'ouvre une petite parenthèse, je rappelle que l'utilisation du suffixe « ion », donc dans « judiciarisation », répond bien donc à une des définitions possibles de ce type de suffixe. Je cite « donner une idée d'action, de résultat d'une action ou d'un objet réalisant cette action ». Rapporté à la langue anglaise, donc qui est à l'origine de ce suffixe, le mot « judiciarisation », qui devient donc « judicialization », est conforme à l'idée d'aller, qui se déplace. Et par conséquent, ça qualifie une apparente réalité qui serait celle d'une judiciarisation du politique, c'est-à-dire s'impose avec ce mot, en utilisant ce mot, le constat, ce qui serait le constat d'un processus à l'œuvre dont la justice serait investie ou s'investirait avec comme corollaire donc la suggestion d'un accroissement. Judiciarisation, ça veut dire de plus en plus d'interventions de la justice. Judiciarisation du politique, c'est de plus en plus d'interventions de la justice dans le domaine, la sphère qui auparavant était du monopole du politique. Hein, voilà un petit peu ce qui est, quand on utilise le mot, ce qui il suggère implicitement, et donc comme une sorte d'évidence, d'autant plus forte qu'elle est affirmée pas simplement au niveau national, mais au niveau international, et immédiatement la question qu'on peut se poser, et ça c'est là aussi c'est le chercheur qui réagit, c'est quelles mesures, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a une judiciarisation et quels sont les indicateurs effectivement qui permettent de caractériser une judiciarisation. Donc je reviendrai, une introduction très rapide, je reviendrai sur chacun de ces termes qui posent problème en fait du point de vue d'une vraie démarche de recherche. L'autre terme figure est tout aussi sujet à interrogation, mais je suppose que vous vous êtes vous-même interrogé quand vous l'avez choisi comme titre de votre cycle de séminaire. Et figurer, elle suggère effectivement représenter, et je crois que vous avez sans doute là fait un choix conscient et maîtrisé, et mon interprétation personnelle est en tous les cas qu'il suggère une réalité éventuellement avec différentes déclinaisons, mais aussi il suggère ce mot figure du juge, figure, il suggère une représentation sociale du juge et donc par conséquent une construction, non pas une réalité en soi, mais une construction qui peut être en décalage précisément avec la réalité du juge, de ce qu'il est, de ce qu'il devient, de ce qu'il fait et de la façon dont il est institué. Et la question alors devient pour moi quelles sont les causes de cette construction. Quelles sont les causes de cette construction? Pourquoi cette représentation sociale du juge, effectivement, et question très importante du point de vue, en tous les cas, des sciences sociales, toujours, c'est de se dire quels en sont les acteurs. Quels sont ceux qui, effectivement, participent à cette construction d'une représentation sociale du juge qui aurait pris ce statut à l'intérieur de nos sociétés. On est là, si vous voulez, au cœur de la rupture épistémologique au fondement de toute démarche de recherche de sciences sociales, notamment sur le droit et la justice. Quand on travaille effectivement sur le droit ou sur ses mises en œuvre, il s'agit, pour reprendre une expression que j'ai beaucoup aimée dans une lecture relativement récente, se débarrasser de la fiction de l'immaculée conception de la parole juridique. Je crois que c'est Bastien François qui dit ça superbement dans un débat qui a eu lieu sur les mouvements critiques du droit. Se débarrasser de la fiction de l'immaculée conception de la parole juridique. Et ajouterais-je, de ces expressions institutionnelles. Donc la justice, le juge, et par conséquent, constamment s'interroger sur les locuteurs. Et sur les acteurs, ce qui motive leur discours, en l'occurrence les représentations donc qu'ils donnent à voir dans le cadre de ce qui apparaît bien alors effectivement comme une construction qui, comme l'avait dit Jacques Derrida, doit faire l'objet d'une déconstruction. Dernier, je finis très vite mon introduction, je crois que c'est le dernier terme qui était encore, qui pose problème dans l'intitulé de mon intervention, le terme tout-puissant, juge tout-puissant, et qui mérite là aussi d'être considéré avec une certaine circonspection, puisque il suggère pour moi, en tous les cas, l'idée d'une tout-puissance, d'une toute-puissance, et c'est celle-là qui m'intéresse plus particulièrement dans le cadre d'une perspective de sociologie politique, d'une toute-puissance par rapport aux politiques. La question qui se pose finalement, peut-être de savoir si la toute-puissance, entre guillemets, du juge s'imposerait de plus en plus à un politique qui serait lui-même de plus en plus défaillant. J'anticipe sur des choses sur lesquelles je vais revenir très rapidement, mais c'est vraiment ce qui est contenu dans l'expression judiciarisation du politique. C'est l'idée principale qui justifie en quelque sorte, qui inspire le terme, l'expression de judiciarisation du politique. Et la question là pour nous, c'est de savoir si, se demander si les choses ne sont pas plus complexes que celles-là. Est-ce que le juge est un acteur, devient un acteur politique central, point d'interrogation. Est-ce que le juge devient un co-acteur du pouvoir politique plutôt que le tiers-pouvoir, pour reprendre, je crois, l'expression de Denis Salas. Mais aussi, et j'essaierai de l'évoquer très rapidement dans ma présentation, est-ce qu'on n'est pas, à l'inverse, dans une période historique dans laquelle le juge est lui-même instrumentalisé par le pouvoir ou par le déclin de l'État ou par le déclin des territoires de l'État-nation. J'aborderai aussi ce point si nous en avons le temps. Donc, vous le voyez, Julie Allard bien fait de mettre un point d'interrogation au titre qu'elle m'a imposé pour mon intervention. Toute cette analyse lexicale à laquelle je viens de me livrer sauvagement et trop rapidement annonce la structuration donc de mon propos. Premier point, je vais rappeler donc effectivement ce qu'on peut considérer comme les indices de l'avènement d'une figure du juge tout puissant, notable sous-entendu par rapport aux politiques. Ce sera mon premier point et un rappel de choses que nous avons traitées, Laurence Dumoulin et moi, notamment dans un article de l'année sociologique consacré à la judiciarisation, à la littérature internationale sur la judiciarisation. Deuxième point, deuxième volet de la réflexion que je vous propose, que je vous soumets, c'est la représentation d'une toute-puissance du juge à l'épreuve d'analyse critique. Et puis, troisième point, et ça c'est le plus, je dirais, c'est le plus récent de parmi les réflexions que nous mobilisons actuellement sur, avec Laurence sur cette question et qui est contenue dans ce rapport, c'est la représentation d'une toute-puissance du juge à l'épreuve d'une sociologie de la connaissance appliquée à la production de connaissances sur le juridique. Donc la représentation d'une toute-puissance à l'épreuve du juge, à l'épreuve d'une sociologie de la connaissance appliquée à la production de connaissances sur le juridique. Je ne vais pas anticiper ce que je dois dire, mais c'est la question me passionne parce qu'on est sur un objet, la judiciarisation, qui comporte des enjeux tels qu'il est très révélateur, je dirais, des déformations ou des risques de dérive par rapport à la vérité scientifique. Je reviendrai sur cet aspect. Premier point, donc les indices de l'avènement d'une figure du juge tout puissant par rapport aux politiques. Et là, je fais assez vite parce que c'est un rappel de ce que certainement vous savez sur le phénomène de la judiciarisation, enfin qui justifie l'utilisation de l'expression judiciarisation. C'est l'accroissement effectivement réel de juridictions ayant vocation à incarner le troisième pouvoir, la création donc depuis la Deuxième Guerre mondiale de très nombreuses cours constitutionnelles, notamment en Europe centrale et orientale, au point que, j'y reviendrai sans doute, il y a un célèbre papier d'un collègue qui s'appelle Trochel, il s'appelle « More Courts, Less Democracy ». Donc, je reviendrai sur cet aspect, mais ça veut dire une augmentation très forte, effectivement, notamment dans la partie Europe ex-communiste, de création de cours. Donc, c'est le premier point. C'est aussi la création ou l'importance accordée à des cours suprêmes dans des pays qui ont connu des changements politiques radicaux. Donc, notamment les pays d'Amérique latine, et les pays d'Amérique latine font l'objet d'une immense littérature, effectivement, sur la judiciarisation du politique. C'est l'avènement de nouvelles constitutions. Donc, il y a des indices réels qui conduisent à parler de judiciarisation du politique, et je ne les j'énule pas donc ces indices, je ne les écarte pas. Au point de parler donc d'un nouveau constitutionnalisme, c'est l'accroissement qui est dans certains cas qui fait pour lequel on a des statistiques d'une augmentation sensible des recours à des cours suprêmes. Et on a l'exemple, il y a des travaux sur évidemment la Cour suprême en Israël, la Cour suprême canadienne, la Cour suprême américaine. En quelque sorte, l'élargissement des domaines dans lesquels les cours suprêmes interviennent. Il y a un très bel article dans la fonction politique de la justice sur un constitutionnaliste sur l'extension effectivement des domaines d'intervention de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle colombienne dans des domaines sociaux de la protection sociale dans lequel qui était auparavant du monopole en quelque sorte du pouvoir politique. Ce mouvement donc d'extension de l'intervention de la justice ne se limite pas aux cours suprêmes, aux cours constitutionnelles, mais s'observe également à d'autres niveaux de juridiction qui interviennent sur des contentieux opposant notamment des mouvements sociaux et le pouvoir politique. On voit là en quelque sorte le fait que la justice devient un élément important du répertoire de l'action collective. Elle entre dans les stratégies des mouvements sociaux comme ressource, donc on y reviendra peut-être. Voilà, et puis tout ça fonde, donc, comme je le disais au départ, une immense littérature. On a failli, avec Laurent Dumoulin, mourir étouffé. On a été totalement inconscient quand on est entré dans cette littérature. C'est monstrueux, quoi. Il y a des bibliothèques entières sur la judiciarisation du politique, la majorité de cette production étant anglophone et étant pour beaucoup d'origine américaine. Un accroissement grand et ce qui amène certains auteurs à parler d'un déplacement de grande ampleur du pouvoir, s'observant, je cite un auteur américain, s'observant au niveau international, de l'exécutif, du législatif, vers le judiciaire et les autres institutions juridiques. On pourrait donner encore d'autres expressions, mais je vais pas trop rester sur cet aspect-là parce qu'il y a d'autres volets qui me paraissent intéressants d'évoquer avec vous. Mais les dispositifs judiciaires de contrôle des lois, c'est l'intervention dans la formulation des politiques publiques par les juridictions et par les cours suprêmes. C'est ce qui serait une régulation de plus en plus présente des pratiques politiques, le financement des partis politiques, la corruption, le contentieux électoral, etc. Et donc, c'est important, le recours à des procédures de type judiciaire dans des forums non judiciaires. Qui produisent des lieux, qui produisent de la décision et de la négociation. Et il y a des travaux, notamment sur le GATT, qui montrent une forme de judiciarisation des procédures à l'intérieur du GATT. Donc là, j'arrête sur. Vous voyez, comme disent les collègues américains, a worldwide phenomenon. Donc, un véritable phénomène de globalisation. Judiciaire qui est en quelque sorte parallèle ou en articulé avec une globalisation économique, juridique et politique d'une certaine façon. Peut-être dernier point sur ce volet de la réalité de la judiciarisation, les causes qui sont avancées pour expliquer effectivement ce phénomène de judiciarisation, c'est l'accroissement de la protection des droits individuels, des droits des minorités. Donc on va voir apparaître beaucoup cette question des droits des minorités. De ce point de vue-là, la littérature canadienne est tout à fait illustrative avec la fameuse charte des droits fondamentaux. On met en avant les jugements négatifs qui sont portés par les élites sur les institutions en charge de l'action publique et l'incapacité donc croissante, ce qui serait l'incapacité croissante des acteurs politiques à traiter des problèmes dont ils sont saisis. On revient à la question que j'évoquais tout à l'heure du déclin du politique ou de l'incapacité croissante que le politique aurait à traiter d'un certain nombre de questions. Il y a quelque chose de plus culturel, et c'est mis en valeur notamment par les ouvrages de référence de Martin Shapiro et Alex Stone Sweet, selon ces auteurs, un processus général par lequel le discours du droit pénétrerait et serait absorbé par le discours politique. Le discours du droit serait absorbé par le discours politique. Et puis, il y a parmi ces facteurs, ces causes avancées, il y a les ruptures politiques radicales. Et là, on a effectivement l'exemple de l'Amérique latine et des changements radicaux qui se sont produits après les dictatures. Shapiro avance encore, et sera mon dernier élément sur les causes précisément. Shapiro et Stone Sweet avancent aussi ce qui pour eux leur apparaît comme une tendance lourde, c'est-à-dire la multiplication des niveaux de gouvernement et d'administration, notamment dans le cadre des processus de supranationalisation, fédéralisation, de constitution d'entités politiques supranationales. Et donc, ça favorise en quelque sorte cette espèce de recours croissant, cette importance croissante accordée à la régulation par la justice. Ils avancent aussi, j'en terminerai là-dessus, Shapiro et Stone Sweet, la perte de confiance dans ce qu'ils considèrent comme les gouvernements technocratiques un accroissement du pouvoir d'intervention des groupes de pression et une implication croissante des citoyens une volonté d'implication croissante des citoyens dans la réalisation des politiques publiques. Alors, voilà, à grands traits, rappeler comment est justifiée et sur quoi est fondée cette idée de judiciarisation du politique, j'en viens à mon deuxième volet, qui est la représentation d'une toute puissance du juge, donc à l'épreuve d'analyse critique. Et là, cette expansion, ce qu'on peut dire, cette expansion d'une, cette vision d'une extension inéluctable et majoritaire, connoté positivement, donc d'un processus qui serait un processus, une progression linéaire, conçu comme une progression linéaire d'une judiciarisation du politique et par conséquent d'une puissance grandissante du juge, fait l'objet de réserves, de mise en garde, d'interprétations critiques extrêmement virulentes. Je vais reprendre très très vite quelques-unes de ces critiques. La première elle n'est pas dans cette littérature sur la judiciarisation. J'ai été la chercher dans le rapprochement qui est fait parfois entre le déclin des professions dans nos sociétés occidentales, le déclin des institutions et donc la mise en cause d'une idée du juge tout-puissant. Premier élément. Deuxième élément, c'est les réserves qui portent sur l'efficacité de la justice et en fait l'incapacité dans laquelle elle se trouverait d'effectivement assumer cette fonction que lui prête la judiciarisation, les analyses portant sur la judiciarisation. Troisième réserve, elle porte sur la légitimité, le problème dont je reviendrai très très vite. Est-ce que la justice est légitime ou serait légitime à intervenir aussi largement comme la judiciarisation du politique, les courants de judiciarisation du politique le prétendent. Quatrième réserve ou critique, c'est le juge tout-puissant comme tiers pouvoir n'est-il pas en fait un co-acteur du pouvoir tout-puissant? Alors je vais m'expliquer sur cette quatrième réserve. Et cinquième, est-ce que le juge tout-puissant, ce que j'annonçais dans mon introduction, n'est pas en fait assigné et instrumentalisé par le politique? Premier point, donc, le juge comme professionnel et comme acteur d'une institution, là très rapidement, parce que je pense que ça pourrait vous intéresser par rapport à vos propres travaux et vous amener à entrer dans cette littérature qui est une littérature a priori éloignée de la théorie du droit, des recherches sur le droit, mais qui me semble avoir de l'intérêt. C'est toute une littérature qui porte sur la sociologie des professions et qui considère par exemple que les professionnels du droit sont confrontés, comme les autres professions, à ce que les spécialistes des professions, la sociologie des professions, appellent des pratiques prudentielles. Et les professionnels se trouveraient dans l'obligation de rompre avec une définition de leur travail qui n'est plus la déclinaison d'une règle figée, et l'obligation de rechercher de nouveaux types de légitimité professionnelle. On a sorti dans une des collections de droit et société un ouvrage sur cette question des nouvelles formes de recherche de légitimité professionnelle. De façon générale, donc, ce que souligne cette littérature, c'est un recul de la confiance du public à l'égard des professions auxquelles n'échapperaient pas les professions juridiques et les juges. Et qui tiendrait donc ce recul de la confiance à l'élévation du niveau d'éducation et de la capacité donc qu'ont les citoyens d'accéder à l'information et qui aurait réduit donc l'asymétrie cognitive entre le professionnel et son client. Et donc ce qui s'inscrirait dans le développement en quelque sorte d'un mouvement de contestation des autorités et dans un mouvement donc de déclin plus largement des institutions. Et là je vous renvoie au livre notamment de François Dubay et également un très très beau travail qui est une sorte de traité de la sociologie des institutions par Jacques Lagroix, donc, qui est un politiste et d'autres auteurs qui travaillent cette question du déclin des institutions. Donc là, un recul de l'autonomisation de la réflexion des professionnels et une technicisation de leur travail qui notamment, donc ils seraient inscrits dans ce processus de technicisation de leur travail, qui entraverait leur contribution aux débats sociaux et sur, notamment sur la hiérarchie des finalités de leur activité. Florent Champy, donc, est un des bons spécialistes de la sociologie des professions et qui a écrit un bel ouvrage, enfin, deux séries d'ouvrages sur la sociologie des professions et je crois nouvelle théorie sociologique des professions, dit notamment les transformations en cours de la figure du professionnel participeraient plus généralement du recul du politique tout en l'alimentant. Premier point. Donc, ce rapport entre la contestation de la toute-puissance du juge par rapport au statut en général des professionnels et au statut des institutions. Deuxième réserve, c'est la question de l'efficacité. Donc, la toute-puissance du juge, l'idée de toute-puissance du juge, confrontée au problème de son efficacité. Et nombreux travaux, effectivement, sur la judiciarisation du politique témoignent du doute sur l'influence des juridictions dans le policy making. La volonté qui existe dans les courants doctrinaux américains, notamment, de faire de la justice une agence gouvernementale, inscrite dans les processus d'action publique, se heurte en fait au constat que la justice n'est pas du tout en mesure, et ce n'est pas dans sa culture, en quelque sorte, de devenir un élément de ce processus de policy making, et elle a des moyens limités, mais elle a aussi une culture qui, en quelque sorte, la confronte avec cette volonté d'inscription dans les policy making, est contraire à la concession même de la fonction du juge, qui est une fonction plutôt qui porte sur le jugement, sur la décision, alors que le policy making est un processus en continu et qui suppose notamment que après la décision soient observées les mises en œuvre, les effets de la décision et les mises en œuvre. Donc, et s'ajoute à ça aussi l'incapacité dans laquelle se trouverait le juge de transcender, je reviendrai là-dessus dans un autre volet de ma réflexion, son incapacité à transcender le traitement des cas individuels et à travailler avec des catégories générales. Alors, je crois qu'on est sur une critique très très importante, très à l'égard de la justice. Je reviendrai sur une réserve tout à l'heure, une autre réserve. Donc, la capacité du juge à transcender les catégories générales, le traitement des cas individuels et à travailler avec des catégories générales qui leur permettraient de contribuer à un véritable travail de gouvernement, comme s'ils étaient véritablement inscrits positivement dans des processus de policy making. Et donc là, quelque chose qui s'oppose tout à fait à des courants doctrinaux qui sont notamment très forts aux États-Unis et qui prétendent, comme je le disais à l'instant, de faire de la justice des agences gouvernementales et où la référence au droit est moins importante que, dirais, la gestion des cas qui sont soumis à la justice et le suivi des cas qui seraient soumis à la justice, et notamment des cas qui concernent notamment des décisions de politique publique. Troisième objection, c'est celle de la légitimité. Alors je vais essayer d'être plus synthétique parce que je vois l'heure qu'avance et dans ma passion de vous communiquer, j'ai prévu trop de choses, comme d'habitude. Là, c'est le. On retrouve. Alors, je parle avec le maximum d'humilité devant les philosophes. C'est le vieux problème de la légitimité fondée sur l'élection et la légitimité fondée sur la compétence. Donc, cette intervention des juges dans la sphère politique est considéré comme inacceptable parce qu'il n'aurait pas la légitimité que le politique lui a, parce que sa légitimité est fondée sur son vrai fondement, c'est-à-dire sur l'élection. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître dans cette littérature internationale sur la judiciarisation les termes de juroquatie, juristocratie, courtocratie, cultural piracy, etc. Et donc l'idée qu'en quelque sorte il y a un mouvement qui confère au juge, en dehors de tout contrôle, un pouvoir considérable dans des affaires qui normalement devraient être traitées par, par le politique. Et on a vu ce débat extrêmement passionnel se développer notamment au Canada sur la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 qui effectivement à la fois la gauche canadienne déplorait que la toute-puissance du juge présente un risque de dépolitisation du mouvement social, et la droite canadienne déplorait, elle, que les juges entrent ainsi sur le terrain du politique et de la production donc de programmes publics, alors qu'ils ne sont pas légitimes, entre guillemets, pour le faire. Il y a un auteur, donc notamment doctrinal, Rainer Knopf, qui écrit, je cite, « La démocratie représentative est menacée par les forces constituées à la fois par le populisme et la politique judiciaire judiciarisée des droits ». Et donc il parle, lui, de tentation théocratique. Juge tout puissant comme tiers pouvoir, entre guillemets, ou juge comme co-acteur du pouvoir. Donc ma quatrième réserve ou objection sur la, en ce qui concerne la judiciarisation du politique. Et là aussi, je vais être très synthétique, c'est en illustrant cette réserve ou cette critique par notamment les travaux de Ran Hirschel. Les travaux de Ran Hirschel, donc Towards Juristocracy, montre notamment avec l'exemple israélien de la Cour suprême israélienne ce qui serait une sorte de d'alliance, de complicité, oserais-je dire, entre les élites politiques, les élites économiques et les élites judiciaires pour contribuer à déplacer la décision politique des institutions politiques prévues, notamment le législatif, vers le judiciaire. Considérant que, notamment, alors c'est un des exemples, il le fait sur plusieurs pays, mais que la bourgeoisie ashkénaze qui avait le pouvoir économique et le pouvoir politique se voit dessaisie par les mouvements migratoires d'immigrés, notamment d'Europe ex-communiste, de Russie, et qui, d'une certaine façon, développe une stratégie de disqualification, de relativisation du pouvoir législatif vers le pouvoir judiciaire, où ils font alliance, effectivement, et les élites judiciaires se prêtent, effectivement, à cette stratégie, se prêteraient à cette stratégie des élites politiques et des élites économiques. Il y a un travail que je vais quand même citer, qui est très intéressant pour illustrer ce qui serait donc une stratégie des élites convergentes, politiques, économiques et judiciaires. C'est un très beau travail d'une auteure, d'une sociologue américaine qui s'appelle Nilsan Shorev, et qui a travaillé sur la régulation du commerce américain au niveau national et international. Et elle démontre, elle fait un gros travail empirique, elle démontre qu'il y a une stratégie délibérée des tenants d'une libéralisation, donc les milieux d'affaires américains, pour opérer un déplacement de l'espace politique vers l'espace judiciaire. Et donc ils ont en quelque sorte entrepris une véritable dépolitisation par un recours aux procédures judiciaires. Leur objectif était en quelque sorte d'affaiblir les pressions politiques directes sur lesquelles s'appuyaient fortement les protectionnistes, qui étaient en lien étroit avec les membres du Congrès, et donc de transférer l'espace de pouvoir, d'affrontement du Congrès vers le judiciaire. Et pour elle, donc, pour cet auteur, la thèse qu'elle tient, c'est la transformation fonctionnelle des États, du keynésianisme au néolibéralisme, s'est fondée sur une transformation structurelle prenant la forme d'un déplacement du politique vers le judiciaire. J'en viens à mon cinquième, ma cinquième réserves ou objections, et je vais essayer là aussi d'être synthétique parce que je voudrais aborder le troisième volet sur la sociologie de la connaissance, qui m'est particulièrement cher en ce moment. Le juge tout-puissant assigné par le politique. Et l'analyse que je viens d'évoquer, auquel je viens de faire référence, de Nitsan Shorev, m'introduit en quelque sorte à cette dernière déclinaison critique de la toute-puissance du juge. Et là, je m'appuie sur un travail que j'ai fait avec Emmanuel Bernahem, dont on parlait tout à l'heure avec une de mes anciennes élèves du master européen. Pardon. Et que nous avons fait sur ce que nous avons appelé la gestion du social par la justice, en s'appuyant sur des travaux canadiens qui portaient d'une part sur l'internement psychiatrique sans le consentement des patients, d'autre part sur les itinérants, c'est-à-dire les personnes sans domicile fixe, sur le problème du statut des populations autochtones au Canada, et sur le harcèlement psychologique au travail. Alors tout ça fait un peu un inventaire à la Prévert, mais en fait, chacun des chercheurs qui a travaillé sur chacune de ces questions s'est interrogé effectivement sur la fonction de la justice dans ces différents domaines. Et le constat général, et donc on a été chargé, j'ai été notamment chargé avec Emmanuel Bernahem de faire un travail de synthèse et de théorisation de cet ensemble de recherches sur des domaines différents, et le constat auquel nous sommes parvenus, c'est de considérer que dans la gestion du social, la justice, loin d'être une institution tiers, d'être un tiers pouvoir, fait système, en fait, avec l'État dans ses nouvelles orientations, c'est-à-dire dans le fait qu'il renonce, notamment, il se retire de la gestion du social, et faire système, ça veut dire que ce que ne fait plus l'État, la justice est assignée à le faire. Mais elle le fait avec, je dirais, sa culture d'institution, ses propres conceptions, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, le juge travaille sur des cas individuels, il n'est pas en mesure, ou il n'est pas en quelque sorte, il n'est pas enclin à généraliser à partir de cas individuels, et cette conception très individualisante, en quelque sorte, du traitement du social, irait tout à fait dans le sens des principes du néolibéralisme, et donc du retour à, notamment, à la responsabilité individuelle. Je suis un peu rapide, mais voilà, en quelque sorte, et ce qui est important, c'est que dans cette gestion du social, le juge va faire apparaître très fortement à la fois ses systèmes de valeurs, et qui donc nourrit de considérations morales qui sont généralement extrêmement distantes des populations sur lesquelles qu'il a effectivement à gérer dans le domaine du social, c'est les itinérants par exemple que j'évoquais tout à l'heure, et donc il va fonctionner à partir de considérations morales socialement situées et de représentations socialement situées du monde, des mondes sociaux et culturels qui lui sont totalement étrangers et qui s'opposent donc au mode d'être et de penser des populations sur lesquelles le juge intervient. Et il est amené là à faire un véritable travail de singularisation des cas à traiter. Et donc, en quelque sorte, à occulter la dimension sociale des problèmes auxquels il est confronté à travers les individus qu'il a à traiter dans le cadre de son cabinet. Et par exemple, sur l'internement psychiatrique sans le consentement des patients, la question, par exemple, d'un phénomène qui est souligné par un certain nombre de sociologues de psychiatrisation du social, c'est-à-dire le fait que les institutions ne gèrent plus, les institutions publiques gèrent plus ou gèrent moins les cas de précarité sociale qui conduisent à des cas de précarité au plan psychologique, conduit à déplacer cette question qui était gérée par les institutions publiques vers la justice, et la justice ne connaît plus que effectivement le dérèglement psychologique de la personne sans pouvoir traiter et sans ou sans vouloir traiter la dimension sociale, le contexte social dans lequel se produit ce dérèglement psychologique. J'en viens à mon dernier point, donc mon troisième volet, c'est la représentation d'une toute puissance du juge, donc à l'épreuve d'une sociologie de la connaissance appliquée à la production de connaissances sur le juridique et sur le judiciaire. Là, ce que je vais très synthétique, tenter d'être très synthétique, ce que nous avons fait, c'est nous avons repris cette littérature internationale avec Laurence Dumoulin, donc c'est l'objet de ce rapport, en essayant, et c'est encore une recherche exploratoire, parce que là nous sommes encore confrontés à l'immensité de cette littérature, c'est-à-dire à la fois comment on peut entreprendre une analyse critique, au sens d'une analyse approfondie, de la façon dont cette littérature se construit. Et donc on a fait un travail en deux temps. Un premier temps, une phase quantitative où on a travaillé sur un peu plus de 500 publications, ouvrages, articles, contributions à des ouvrages de 1990 à 2012. Et là, on a constitué une base de données et on a donc on avait un certain nombre de variables. On a fait des croisements de variables pour voir notamment qui écrivait sur la judiciarisation, quelle institution, quelle discipline, des croisements avec les lieux, avec les pays, avec les types d'universités, etc. Donc un travail qui a donné lieu à des tableaux et des graphiques. Et à partir de là, on a entrepris une autre phase plus qualitative sur 28 ouvrages, chapitres d'ouvrages ou articles, complétés par une grosse bibliothèque que nous avons constituée, notamment dans le premier travail qu'on avait fait avec Laurence pour l'article de l'année sociologique. Donc plus d'une 200 ouvrages, je crois, on a travaillé 200 ouvrages, articles et contributions. On a établi donc un dispositif d'analyse de contenu sur cet échantillon réduit non représentatif pour voir quelle était la thèse qui est tenue, qui la tenait, quel était le contenu de la thèse, quelles étaient les méthodes utilisées, donc les fondements empiriques des travaux publiés, est-ce qu'il y avait une dimension normative, et en nous attachant aussi à essayer de voir établir des sortes de sociogrammes, c'est-à-dire qui cite qui, et est-ce qu'on peut établir des sortes de graphiques, en quelque sorte, de réseaux de citations, de réseaux d'auteurs, les uns par rapport aux autres. Alors, je vais reprendre juste quelques éléments, parce que ça, c'est un travail qu'on souhaiterait développer dans une recherche beaucoup plus large, et avec en travaillant notamment avec des gens très compétents en matière méthodologique pour mettre en place un dispositif méthodologique encore plus sophistiqué que celui que nous avons mis en place et qui est encore très artisanal. Ce qui apparaît très nettement, si vous voulez, c'est que loin d'obéir à une dynamique autonome de la recherche, le phénomène dit de judiciarisation du politique donc résulte de l'influence de logiques multiples qui tiennent notamment à des contextes sociopolitiques qui varient dans le temps, aux disciplines impliquées, bien sûr, aux pays engagés dans ce type de production de connaissances, à des contextes propres au milieu académique dans lesquels les auteurs développent des stratégies d'acteurs tournées vers leur univers professionnel et vers l'extérieur. Et la judiciarisation, en quelque sorte, on en a fait un objet de connaissance qu'on a considéré comme je le disais au départ, comme un objet construit. Et donc, quelques-uns des traits que nous avons pu dégager dans ce travail exploratoire. Le premier, c'est, et qui montre comment c'est construit, et quels sont les éléments de la construction de cet objet judiciarisation du politique. Premier élément, parmi beaucoup d'autres, le jeu propre d'une communauté académique internationale. Il y a, en quelque sorte, il y a une communauté internationale qui est spécialisée, se considère ou est considérée comme spécialisée de la judiciarisation du politique. Et c'est très très, très intéressant de voir dans les sociogrammes, de renvois d'auteurs à d'autres auteurs, on voit apparaître des rituels où la légitimation savante de son propre écrit passe par ses renvois. Et certains des renvois obligés, c'est-à-dire si on veut être reconnu comme un auteur sur la judiciarisation du politique, il faut citer, il y a des auteurs qui sont incontournables, Shapiro, Wallinder, si vous ne les mettez pas dans votre article, vous êtes immédiatement disqualifié, enfin vous n'êtes pas un spécialiste de la judiciarisation du politique. Donc il y a des régularités extrêmement fortes dans le jeu des citations et qui conduit à en quelque sorte à vous consacrer comme appartenant à la communauté internationale de ce sujet de la judiciarisation politique. Et on a construit trois types de rapports donc avec cette littérature. Et là on voit bien les stratégies d'auteur. Donc ce que j'ai repris la typologie de Suzanne Silbet et Patricia Ewick sur les rapports aux droits des citoyens ordinaires. Donc avec cette littérature, donc sa propre recherche est en quelque sorte là une validation supplémentaire des grands constats sur le thème. On ne prétend pas dépasser, critiquer, on fait avec, quoi, et on montre que ce sur quoi on a travaillé participe des grands constats que développe cette littérature. Face à cette littérature, et là, sa propre recherche s'inscrit précisément dans un processus cumulatif où on prétend un dépassement de l'état des connaissances, l'état du savoir sur le domaine concerné. Troisième type, contre cette littérature, et là, très nettement, sa propre recherche on assume une contradiction très forte de sa propre recherche par rapport aux thèses existantes, aux thèses dominantes dans le domaine de la judiciarisation, et donc on s'offre volontairement à la controverse. Alors, ce qu'on voit bien dans ce gramme, ce jeu entre de réponses, entre d'écho entre les auteurs aussi, c'est la prépondérance des références américaines, c'est-à-dire c'est une littérature. Prépondérance des références américaines et un pouvoir d'influence très très fort des auteurs américains, de la littérature américaine, et dont on essaie de voir en quoi c'est simplement une influence intellectuelle sur le registre scientifique, mais en quoi aussi ça peut être une influence qui touche au registre idéologico-politique. En quelque sorte, le modèle d'analyse qui est inspiré par le modèle américain se confond avec, on pourrait dire, avec le bon modèle politique. Et c'est très frappant de voir cela, notamment dans des travaux comparatifs qui sont très importants dans le domaine de la judiciarisation du politique, et très souvent qui sont initiés par des universités ou des auteurs américains, et qui... C'est une autre faiblesse, je crois, de cette littérature. C'est-à-dire, on établit un espèce de schéma général d'observation qui s'impose à tous les auteurs qui sont à travers le monde. Et ce schéma général d'observation est conçu par des auteurs américains. Et chaque auteur, donc, généralement, rend compte de ce qui se passe dans son pays à partir de ce schéma. Et là, on voit, très difficile à déceler, mais cette espèce de porosité entre ce qui est un modèle d'analyse de recherche scientifique et ce qui devient en quelque sorte, ce qui est inspiré aussi par une conception idéologico-politique du bon modèle de la justice démocratique aux États-Unis, pour ne pas la nommer. Bien entendu aussi, ce qui apparaît dans ce premier travail que nous avons fait, c'est des logiques de discipline. Et là, on voit bien comment, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais comment il y a des différences en quelque sorte d'approche du phénomène de la judiciarisation en fonction de la discipline à laquelle on appartient. Alors très rapidement, du côté du droit, qui là, non pas comme une pratique, mais comme une discipline de connaissance, ce qui importe d'abord, ce sont les modes de fonctionnement et de mise en œuvre du matériau juridique. Hein, ce qui importe, ce sont les modes de fonctionnement et de mise en œuvre du matériau juridique. Du côté de la science politique, c'est en priorité ce que le droit fait aux politiques et réciproquement, ou ne fait pas aux politiques. Et du côté de la sociologie, ce qui est très dominant, je suis un peu schématique et je vous prie de m'en excuser, mais je vois l'heure avancer et je vais vous laisser la parole. Du côté de la sociologie, ce qui importe d'abord, c'est le dévoilement des stratégies des acteurs concernés et les fins qu'ils visent, et ceci de façon dominante dans une perspective de science critique qui conduit notamment à rompre avec les notions positives ou enchantées du processus historique de judiciarisation du politique. Et là, on a l'exemple que je vous citais tout à l'heure de cette sociologue américaine sur le protectionnisme. Ce qui est intéressant aussi, alors on a travaillé sur les caractéristiques des auteurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il se remarque chez les auteurs juristes, c'est souvent leur multipositionnalité. Multipositionnalité, c'est-à-dire ils sont à la fois dans le monde académique et ils sont aussi dans le monde de la haute administration, dans le monde politique. Et là, on voit très très bien comment le travail de connaissance, entre guillemets, est mis au service, en fait, d'objectifs politiques. Et ceci d'autant plus que, précisément, ils sont dans une situation de multipositionnalité. J'en viens peut-être à un dernier point, j'en aurais eu bien d'autres à évoquer, mais c'est ce qui est très frappant dans cette littérature, c'est l'extraordinaire, les lacunes méthodologiques. C'est-à-dire que la majorité de cette littérature est une littérature de nature doctrinale, pourrait-on dire. Elle est rarement fondée sur de l'empirie, sur un gros travail empirique. Et c'est très frappant, dans le dernier échantillon sur lequel on a travaillé avec Laurence, de voir qu'il n'y a pratiquement jamais d'entretien. C'est-à-dire, on travaille sur des écrits, on travaille sur la documentation. Et il y a le problème de la représentativité est un problème très très rarement posé, et le problème de la le problème de la comparaison, par exemple, est traité de façon extraordinairement lacunaire, ce que j'évoquais tout à l'heure, y compris d'ailleurs dans des écrits qui sont des écrits éventuellement dans lesquels sont impliqués des sociologues. J'ai fait une critique assez dure d'un ouvrage comparatif qui met en rapport le rôle des avocats et le libéralisme politique dans un grand nombre de pays dans le monde. Et ce livre, donc, qui a fait l'objet d'une longue recension dans l'année sociologique, j'ai beaucoup investi sur cet ouvrage, parce que je n'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire, vous avez une thèse qui est tenue sur la relation causale établie incontestablement entre le libéralisme politique et le rôle des avocats à travers le monde. Et puis, quand vous lisez chacun des chapitres qui sont consacrés à chacun des pays, la plupart des chapitres contredisent absolument cette thèse. C'est-à-dire qu'ils montrent que c'est bien plus complexe que ça, que beaucoup d'avocats ne vont pas du tout dans le sens du libéralisme politique, sont au contraire alliés avec des élites politiques, y compris dans des pays autoritaires. Et donc, c'est un gros dispositif qui a été mis au point de comparaison par ces auteurs, qu'ils ont imposé. Et en fait, les auteurs par pays finissent par contredire et ne pas rentrer dans ce cadre d'analyse qui a été imposé au départ, et finir par développer des thèses dans chacun de leurs pays qui contredisent la thèse générale qui est à la fois affirmée dans l'introduction et prétendument prouvée dans la conclusion avec les contributions. C'est assez stupéfiant. Voilà. Donc, ce que je voudrais simplement dire pour terminer, c'est je crois qu'il y a un beau travail à faire et que nous avons peut-être de façon pluridisciplinaire, à partir de nos compétences respectives, un très beau travail à faire, une piste, je crois, qui s'ouvre, qui n'a, à mon avis, pas été encore assez travaillée, de sociologie de la connaissance, c'est-à-dire... effectivement, comment, au lieu de prendre pour acquis des thèses qui sont développées, qui s'imposent, comme celle de la judiciarisation du politique au niveau international, faire un travail sur comment revenir réflexif sur comment cette production est produite, dans quelles conditions, et je crois que ce que m'a suggéré cet objet, comme je vous le disais, je crois, au départ, de la judiciarisation du politique, c'est que les enjeux sont si importants, ils concernent tellement, effectivement, la question de la régulation politique et des mutations de la régulation politique dans les sociétés contemporaines, que travailler sur cet objet fait apparaître, effectivement, des facteurs qui sont des facteurs extra-scientifiques et qui jouent, effectivement, sur la construction, sur la production de connaissances, donc en l'occurrence sur la justice, mais je pense que ce type de posture critique que nous pouvons prendre vaut sur le droit également, et me semble-t-il, en faisant ça sur le droit et sur la justice, je pense qu'on peut contribuer et peut-être permettre d'aller plus loin à une sociologie de la connaissance sur la production de connaissances de façon générale en sciences sociales sur les sociétés. Je crois qu'il y a là une perspective de travail qui pourrait nous réunir de façon plus générale, même au-delà de nous-mêmes qui sommes présents dans cette salle. Et je dois dire, en pensant à cette intervention de ce soir, que j'ai sans doute été inspiré par la lecture de l'ouvrage sur la vérité du procès que j'ai lu, parce que j'ai réussi à l'obtenir aussi quand même, et en quelque sorte ça m'a sans doute conduit encore plus à penser qu'on pouvait travailler sur la question de la vérité scientifique et des facteurs qui nous en détournent d'une certaine façon, et quand on entreprend un travail de production de connaissances sur le droit et la justice.